Welcome to the VA Tourism Podcast, and I'm Koji Benton Williams. The VA Tourism Podcast is dedicated to Africa's travel and tourism industry, where leaders from the private and public sectors get to talk to us. You can subscribe to this podcast on Apple Podcasts, Spotify, TuneIn, and Google Podcasts. Today's episode is the first in the series of our conversations in French, and our guest presenter, Franck-Olivier Clark, will be speaking to the Republic of Congo's Minister of Tourism and Environment, Madame Alette Soudan Nonault. She gives an update of how the Central African country is restarting tourism and her views of UNWTO's approach to get tourism going in the midst of the coronavirus pandemic.
Bienvenue au podcast édition française de Voyage Afrique. Je suis Franck-Olivier Gras et je reçois aujourd'hui son excellence Madame Arlette Soudan Nonault, ministre du Tourisme et de l'Environnement de la République du Congo. Merci de nous donner votre temps, Madame Soudan Nonault.
Bonjour, Monsieur Franck-Olivier Gras. C'est moi qui suis honorée d'être invitée dans votre émission.
Alors, nous savons très occupés. Mais vous n'avez pas ménagé vos efforts pour nous permettre d'avoir au moins 20 minutes de conversation pour ce podcast Voyage Afrique, dans lequel vous allez nous parler de la situation actuelle de l'industrie du tourisme et de l'environnement au Congo. Et donc, ma première question, c'est de savoir quelle est la situation actuelle en République du Congo face au Covid.
Moi, je vous remercie, hein, parce que c'est une préoccupation très au centre de nos économies aujourd'hui, très préoccupante. Mais il faut quand même que vous sachiez que le Congo, comme tout autre pays du monde, comme vous l'avez rappelé, qui a été frappé de plein fouet par cette pandémie du coronavirus, laquelle a eu bien entendu des répercussions négatives sur notre économie en général et puis plus particulièrement sur le secteur du tourisme. Et cette crise, en ce qui concerne mon pays, la République du Congo, il faut le dire, s'ajoute à celle liée à la baisse très très significative des cours du baril du pétrole. Et notre activité aujourd'hui touristique étant fortement liée à l'activité économique, il est évident que ce secteur est en déclin par rapport aux années précédentes, vraiment. Mais cependant, la relance du tourisme au Congo se poursuit grâce à plusieurs réformes que nous venons de mettre en place. En l'occurrence, la réorganisation donc, de l'Office de promotion de l'industrie touristique, la création donc, de la Société congolaise d'ingénierie touristique et la création également de guichets uniques, des métiers du tourisme. Ce sont des lois que nous avons eu à prendre, des lois qui sont issues de ce que nous avons adopté en 2018, la stratégie d'un tourisme responsable et durable. Voilà à peu près ce qui nous permettra aujourd'hui de nous servir de cette opportunité, être quelque chose qui aurait pu nous ramener vers une économie pratiquement sans croissance, qui nous a permis de nous structurer et d'aller réellement vers cette destination touristique que le Congo veut porter comme Green Congo. Parce qu'on ne le dit pas assez, le Congo-Brazzaville, pendant des décennies, c'était l'économie du Congo était basée sur l'économie du pétrole, l'économie des énergies fossiles, l'économie de la forêt et la mise en concession de l'exploitation forestière, l'agroforesterie. Et depuis 2 ans, dans le cadre d'un programme national de développement, le Congo a changé de cap, a changé de paradigme et dans le cadre de nouveaux leviers de la diversification de son économie, au titre donc de PND 2018-2022, le tourisme devint l'un de ces 3 leviers aux côtés de l'agriculture, des industries. Vous voyez, donc il a fallu donc changer de paradigme économique. Et c'est ce qui nous permet, avec la stratégie que le Congo n'avait pas avant 2018, que nous avons portée avec nos amis de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, et le PNUD Congo, qui est l'agence qui nous accompagne ici, et les experts locaux. Nous avons donc eu cette stratégie et nous sommes donc en train de donner le cadre institutionnel et réglementaire. Et donc, ce confinement nous a permis de peaufiner, d'accélérer cette mise en œuvre.
Merci. Et ma prochaine question sera, pouvez-vous nous parler de votre plan d'action et mesures pour soutenir les PME de l'industrie du tourisme de façon spécifique?
Mais avant cela, j'aimerais d'abord ici, vraiment il faut le dire sincèrement, rendre hommage au courage de notre président de la République, au président Denis Sassou Nguesso, hein, qui a su prendre, il faut le dire, des mesures de prévention à temps pour éviter le pire du côté de la gestion de cette pandémie. Et le ministère dont j'ai la charge a travaillé avec les autres départements, donc également ministériels, dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, mais également sur plusieurs mesures qui ont été prises dans la gestion donc de tout ce qui relève de mon secteur au travers des différentes circulaires, en dehors des lois, des circulaires de fermeture des hôtels, des restaurants, des bars, des espaces de loisirs, qui est des salles de cinéma. Et la crainte était de voir ces structures, il faut le dire, se transformer en foyer de contamination. Donc, relativement tôt, nous avons pris ces mesures et c'est pour ces raisons urgentes de l'État en matière de protection sanitaire que quelques hôtels avaient été donc également réquisitionnés. Donc, nous avons vraiment bien géré cette crise, ce qui nous permet, je pense, je suis très optimiste, à rebondir très facilement parce qu'aujourd'hui, dans le cadre des PME, nous avons donc un plan de relance également du secteur du tourisme qui est en cours de validation. Et nous cherchons beaucoup de financement. Nous cherchons beaucoup, beaucoup de financement. Et nous avons une place de choix qui est réservée dans le cadre de cette gestion des financements aux PME, dans le cadre donc de la destination. Comment nous y prenons? Le tourisme étant un secteur, comme je vous l'ai rappelé, prioritaire de diversification de notre économie. Je vous l'ai dit dans le cadre du plan national de développement. Donc, les bénéficiaires du projet, donc de fait, les PME sont de fait bénéficiaires de ce qu'on appelle ici un projet d'appui au développement des entreprises et à la compétitivité qui s'appelle le projet PADEC. PADEC qui est un projet financé par la Banque mondiale. C'est un outil de financement. Donc, il bénéficie d'un soutien de taille, je vous l'ai dit, pour le secteur qui, c'est un grand soutien de taille pour le secteur qui est le mien du tourisme, cet outil qu'on appelle le PADEC, ce projet d'appui au développement des entreprises et à la compétitivité, qui est financé par la Banque mondiale. Il a été lancé simplement courant 2020, c'est récent, c'est courant 2020, et il y a un concours avec des plans d'affaires pour favoriser donc l'éclosion et la croissance des petites et moyennes entreprises des secteurs bénéficiaires donc des différents projets. Il faut soumissionner. Mais il est là, le tourisme a toute sa place dans le cadre de ses financements, étant l'un des leviers de la diversification de l'économie. Et pour ceux qui ont déjà des entreprises touristiques, il existe déjà le fonds d'appui au développement des PME, qui était un instrument déjà opérationnel du projet d'appui au développement des entreprises et à la compétitivité. Et celui-là, il vise également à soutenir le développement et la croissance des micro, petites et moyennes entreprises et à apporter un concours à la construction, à l'animation, à la promotion des chaînes de valeur. Donc, il faut que nous comprenions que nous avons eu un premier outil, celui donc que je viens d'évoquer là, qui existe, le fonds d'appui au développement des PME, et que mi-2020, nous avons lancé un autre produit qui est celui-là porté, financé par la Banque mondiale, qui est donc le projet d'appui au développement des entreprises et à la compétitivité. Donc, il faut soumissionner le secteur privé tous les explorateurs qui veulent œuvrer dans le secteur du tourisme doivent se rapprocher de ces structures qui ont pignon sur rue, qui sont installées sous la coordination de la Banque mondiale. Nos DEP, c'est-à-dire nos directions des études et de planification, notre direction des études et de planification au sein de mon ministère, est habilité également à les orienter tout autant que la direction générale du tourisme, à simplement les orienter vers ses partenaires qui, selon les conditions du cahier de charges arrêté, pourraient recevoir et rendre bancable et éligible des projets en financement dans le cadre donc, du tourisme. Donc, le gouvernement donc, donne des outils d'accompagnement, vous l'avez compris, sur le plan d'un cadre institutionnel et réglementaire et une caution et un appui sur le plan donc, de la recherche au financement, sachant qu'une fois que le projet est bancable, est retenu et éligible, il faut la caution du ministère de tutelle du tourisme en ce qui concerne donc, les projets relatifs à l'investissement dans le secteur donc, de ce tourisme. Et enfin, notre idée finale, il faut le dire, est de mettre en place également un instrument spécifique pour le secteur du tourisme avec donc pour projet de création d'un fonds de garantie. Nous voulons créer un fonds de garantie pour soutenir toute la chaîne des entreprises donc, du secteur touristique. Donc voilà à peu près les trois strates de l'ambition et des choses concrètes que le gouvernement, que mon ministère a proposé et a de façon concrète vraiment comme outil de lever, comme outil que nous avons pour lever cette économie de diversification qui est le tourisme et il faut le rappeler, troisième économie mondiale aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais vous dire, je pense, Franck-Olivier Krah, sur cette question essentielle que vous venez de vous poser.
Madame la ministre, merci de répondre à toutes nos questions parce que votre exposé a été très exhaustif et très clair. Et donc, ma prochaine question, c'est de savoir ce que vous pensez du travail abattu par le secrétaire général de l'OMT.
Je voudrais d'entrer le jeu, hein, féliciter M. Zourab Pololukashvili hein, pour son leadership et pour son excellent travail à la tête de l'OMT. Donc de l'Organisation mondiale du tourisme, qu'il trouve ici donc, l'expression méritée de toute notre confiance. Il est en train de faire un grand travail grâce à ce qu'on appelle une détermination et il prend un nouvel élan et qu'il donne pour nos pays, les pays du Sud, hein, les pays africains. Et nous qui sommes au Conseil exécutif à la République du Congo, accompagnant un certain nombre de pays, nous mesurons depuis son élection à la tête de l'OMT le long chemin parcouru dans la prise en compte de cette destination qui est la destination du futur en matière économique, d'un outil de diversification même mondiale, de la relance de l'économie même mondiale, c'est le tourisme dans la région du sud du globe, donc Afrique. De façon large. Et donc, le secrétaire général, lui, a un très bon programme pour l'Afrique que nous avons adopté. Et mon souhait est que ce programme, tout simplement, se concrétise dès que possible. Et nous nous souhaitons bon vent à l'orée donc, d'une nouvelle élection qui pointe à l'horizon. Bon vent.
Merci, Madame la Ministre. Nous allons parler un peu de vous. Nous savons que vous êtes journaliste de formation. Vous êtes journaliste, vous êtes ministre. Alors, parlez-nous un peu de vos stratégies. Comment est-ce que vous... Parce que je sais que vous avez des admirateurs, des gens... vous êtes une femme leader africaine qui tient la reine d'un ministère aussi important que le tourisme, avec le portefeuille aussi de l'environnement. Alors, quel est votre secret pour pouvoir être aussi efficace? Voilà, c'est la question. Parce que les gens voudront savoir.
Je vous remercie vraiment pour ces mots chaleureux, ces mots de soutien, d'encouragement que vous me formulez. Mais j'aimerais d'abord vous dire que mon leitmotiv est appuyé déjà sur la vision de notre chef d'État auquel j'ai adhéré, cette vision qui s'est transformée chez moi en un mot, en un slogan triptyque que j'ai décliné, qui est « y croire ». Donc, là, qui, y croire, c'est, ça découle de la vision du chef de l'État. Pugnacité et résilience. Mais au centre de tout ça, c'est un bon équilibre familial. Je suis mariée depuis près de plus de 20 ans, 25 ans de vie commune, avec quatre merveilleuses filles qui sont toutes déjà pratiquement majeures. Toutes les deux aînées sont engagées dans la vie professionnelle. La troisième, qui a 22 ans, elle est encore sur les bancs des études supérieures. La dernière est au lycée, elle a 16 ans. Donc, ce petit beau monde à mes côtés, cette famille au sens stricto sensu, au-delà de parents, pères, mères, frères, sœurs et famille un peu plus élargie, m'entoure énormément. Et il y a une ceinture de sécurité auquel, qui vient s'ajouter, c'est mon cabinet, mes collaborateurs. J'ai fait le pari de travailler avec une équipe jeune. Le plus jeune de mes collaborateurs a un poste très sensible à 21 ans. Ce n'est pas l'âge, la compétence. C'est plutôt la qualité du travail. Donc, je me base souvent sur le mérite et l'équité. Et aujourd'hui, ça m'a pris beaucoup d'énergie. 4 ans et demi de gouvernement, ça me prend beaucoup d'énergie parce qu'il faut, lorsque vous misez sur des jeunes, vous prenez des jeunes qui ont un fort potentiel auquel il faut apporter votre management et la connaissance de l'administration. Et lorsque vous les introduisez à un haut niveau, il y en a qui apprennent à nager très vite en grand bain, il y en a qui n'arrivent pas. Je ne crains que certains ne resteront pas parce qu'ils n'arrivent toujours pas à comprendre. Et les enjeux et la pression, les attentes du président est quelque chose de positif qui vous permet de constamment vous permet de lancer d'être sur des différents challenges et cet appétit des sujets sur le tourisme que vous voulez construire, c'est un nouvel outil. Vous savez, je suis la 24e ministre au Congo et pendant des années, nous n'avions pas un cadre réglementaire. Donc, vous voyez, c'est avec beaucoup d'appétit que l'on bataille avec les restes, le gouvernement, mes collègues qui m'entourent, le Premier ministre, la confiance du chef de l'État, qui portent ces dossiers au plus haut niveau, qui ont enfin un outil de diversification dans le PND. Ce n'est pas peu. Et donc, tout ça, c'est valorisant. Ce sont des boosters. Donc, porter les lois, porter accompagné par les deux chambres parlementaires qui vous accompagnent dans l'adoption, les débats que nous avons dans les commissions avant de passer en plénière. Vous voyez, tout ça sont des facteurs de grande motivation. Et puis, vous connaissez la pugnacité des femmes.
Bien sûr.
Voilà, en tant que femmes, nous sommes résilientes, hein, parce que quelque part, vous avez du mal à comprendre que la femme est à la même connaissance, à la même capacité de gouverner, à la même capacité d'appropriation des dossiers. Et donc aujourd'hui, je salue tant les femmes ménagères, les mères au foyer, les mamans commerçantes dans l'informel qui font un excellent travail, les mamans maraîchères, tout ce que vous voulez. Mais il faut aussi les femmes dans l'exécutif. Et donc, nous faisons partie de ces femmes, parce que le chef de l'État, dans le pouvoir discrétionnaire qui est le sien, a voulu nous faire confiance. Et le Premier ministre nous accompagne. Donc, je pense que tout ce que je viens de décrire est très stimulant pour booster certaines femmes, hein, qui ont besoin de souvent qu'on les accompagne. Mais puis, j'ai une nature, il faut le dire, comme dit mon mari, tout plein d'énergie à en revendre. Voilà ce que je peux vous dire. Et donc, mes journées sont… Je ne porte pratiquement jamais d'heures parce que je cours après ce temps qui est suffisamment court dans la journée, pour tout vous dire. Je dors très peu parce que le ministre est censé être politique, mais moi, je suis un ministre technique. Parce que sinon, vous inaugurez des chrysanthèmes lorsque vous arrivez à une période où il faut faire des réformes. Et donc, les réformes demandent que vous vous appropriez les dossiers techniquement pour pouvoir trancher, pour pouvoir orienter dans la décision vos collaborateurs. Et donc, j'ai fait de belles rencontres dans les nominations que j'ai autour de moi au cabinet. Et puis, donc, il y en a qu'il faut consolider. Et il y en a, hélas, lesquels je ne peux poursuivre souvent parce qu'ils n'arrivent peut-être pas encore à percevoir ce haut niveau où nous sommes au niveau du cabinet. Donc, voilà à peu près ce que je pouvais vous dire. Et puis, en matière d'environnement, parce que là, j'ai parlé énormément de tourisme, mais nous gérons, comme vous l'avez rappelé, l'environnement. Et puis, nous gérons également le portefeuille du développement durable. Et nous gérons également la coordination des 16 pays du bassin du Congo dans le cadre de la commission climat du bassin du Congo, dont le président Sassou est le président de la commission. J'en suis la coordinatrice technique. Et on ne le dit pas assez, le bassin du Congo, c'est le deuxième poumon écologique de la planète. C'est le second bassin carbone de la planète. Et donc, nous avons les forêts, oui, mais nous avons également des tourbières découvertes récemment, qui sont 200% des biomasses aujourd'hui des forêts. Et lorsque nous parlons de destination Green Congo, c'est parce que le Congo, c'est 65% de parterre végétal, avec 17 aires protégées. Voilà. Donc, aujourd'hui, notre stratégie est portée donc vers cet écotourisme. Et nous sommes donc au centre donc de toute cette problématique planétaire du climat que nous portons. Et nous avons ce grand régulateur sans lequel même les objectifs des accords d'accord de Paris ne pourraient être portés, à savoir 1% à 2 degrés Celsius du climat à maintenir de la planète ne pourrait être atteint sans la prise en compte de ces tourbières découvertes dans le bassin du Congo que nous partageons avec la République démocratique du Congo sur une superficie de pas moins de 145 500 km² et qui capture pas moins de 30 milliards de tonnes de gaz à émission d'effet de serre, soit l'équivalent de 15 à 20 ans de gaz à émission d'effet de serre des États-Unis et 3 ans de la planète. Donc, vous comprenez qu'il faut vraiment être en forme pour mener tous ces combats de la levée d'une nouvelle économie par le tourisme et de la préservation et de la protection de l'environnement, pas seulement pour la République du Congo, mais pour le reste, vous l'avez compris, de l'humanité également, en tant que pays membre de la deuxième poumon écologique de la planète, donc le bassin du Congo. Voilà à peu près pour vous dire qui je suis, côté cour et côté jardin.
Merci beaucoup, Madame Amix. Et donc, pour conclure, qu'est-ce que vous nous direz pour terminer ce podcast, cette interview vous avez liberté de dire, voilà, de conclure. Donnez-nous, voilà.
Écoutez, je tenais d'abord, M. Franck-Olivier Kra, à vous remercier, ainsi que M. Kodjo Betoum, à vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez donnée de pouvoir nous exprimer sur ces questions post-pandémie, parce qu'ils relancent l'économie congolaise basée sur le tourisme. J'aimerais simplement rappeler que le programme de relance du tourisme en République donc, du Congo pour la période post-Covid-19 s'articule autour de sept piliers regroupés dans 3 axes stratégiques, à savoir l'amélioration de notre gouvernance dans le cadre du secteur que j'ai rappelé tout à l'heure, la diversification et la structuration de l'offre touristique et le marketing et la promotion donc, de la destination Green Congo. Et sur une période de 3 ans, le département donc en charge du tourisme va donc dérouler les actions phares qui ont été identifiées donc dans le cadre de ce plan de relance. Et donc, j'aimerais féliciter le secteur privé congolais qui a compris ce que c'est que ce levier de l'économie congolaise qui est le tourisme, qui est en train de nous accompagner dans le cadre de ce qui leur revient, c'est-à-dire l'investissement, et l'État, donc au travers de ce que j'ai rappelé, leur garantit, au travers des textes que nous avons pris, une prise en compte sur le plan de la fiscalité qui a été réaménagée pour des investissements, sur le plan des infrastructures que nous sommes en train de mener à bien, et sur le plan d'un cadre institutionnel donc, et réglementaire. Donc voilà les mots qui seraient les miens, tout en souhaitant aux uns et aux autres, à l'interne, parce que nous sommes dans la promotion d'un tourisme local aujourd'hui, de pouvoir se déplacer afin de sceller un peu cette unité nationale, sachant que le tourisme est un vecteur d'unité, de réconciliation et de consolidation d'une paix et d'unité nationale. Et nous souhaitons bien entendu, avec la réouverture de nos frontières, la bienvenue donc à tous ces usagers qui souhaitent et tous ces partenaires, tous ces touristes qui souhaitent, tant dans le tourisme d'affaires, tourisme de congrès, tourisme de découverte, venir donc nous rendre visite en République du Congo. Nous sommes en train de travailler à avoir un visa touristique. Nous avons déjà terminé toute l'étude et faite. Il ne reste plus qu'à mon niveau, au gouvernement, simplement, d'adopter ces textes-là. Voilà à peu près le dernier point que j'aurais donc voulu donner en termes d'information. Nous avons bouclé toute l'étude de préfiguration de la mise en œuvre donc, d'un visa touristique. Et donc, très rapidement, nous allons donc lever tous ces obstacles afin de faciliter l'entrée sur le territoire congolais à toutes ces personnes que vous êtes et qui voulaient nous rendre visite. Et je vous remercie pour ce temps qui m'a été consacré.
Je vous remercie, Madame la ministre Arlette Soudan-Nonol. Je rappelle que vous êtes ministre du Tourisme et de l'Environnement de la République du Congo. Et nous sommes très heureux de vous avoir écouté, d'avoir pris connaissance des détails de votre exposé si brillant. Et nous sommes rassurés que le tourisme est dans de bonnes mains en République du Congo pour la relance de l'industrie non seulement au Congo, mais aussi en Afrique, parce que cela servira aussi de référence et d'inspiration pour les pays voisins et les pays africains. Voilà, surtout aussi dans la zone francophone, je dirais. Et donc, nous vous remercions et sûrement, bientôt, nous aurons encore l'occasion de vous écouter pour d'autres sujets relatifs à l'industrie. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, un excellent week-end, Madame la Ministre. Et nous reviendrons, nous resterons en contact pour la suite. Merci.